Je vous invite simplement à ouvrir à nouveau avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. On peut lire tout de suite un petit peu plus loin, vous allez comprendre pourquoi. Toujours dans le chapitre 12, nous n'avions pas lu ça la semaine dernière. À partir du verset 12, j'ai été surpris en méditant que ce texte que nous connaissons si bien se trouve dans le contexte des dons spirituels. Et il y a une raison, et on va en parler un petit peu ce matin. 1 Corinthiens 12, 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, aussi, ainsi, en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun, on retrouve encore, comme la semaine dernière, le chacun des membres. Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Ah, on retrouve, il distribuait les dons comme il veut, on retrouve, il a placé les membres comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Amen. On va un peu plus loin, 1 Corinthiens 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels. Et surtout, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Aujourd'hui, on commence, on va faire sur deux dimanches, on va faire la prophétie. Puisque Paul a dit « aspirez au don, mais surtout à celui de prophétie », je ne vais pas être plus spirituel que Paul, puisqu'il a dit la prophétie, ben je vais commencer par étudier la prophétie, puisque c'est ce qu'il a ordonné. La prophétie, c'est réellement le don qu'il faut rechercher en priorité. Paul dit bien, aspirez surtout à celui de prophétie. C'est l'un des plus importants des dons spirituels parce que ce don transmet un message de la part de Dieu, c'est une parole de Dieu et on sait à quel point la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle est vivante et elle est efficace. Et la parole, elle vient dans notre âme, dans notre cœur, parce que c'est là que se jouent les vrais enjeux, c'est là qu'ont lieu les vrais combats, c'est là que se remportent les vraies victoires, et il faut que les cœurs soient éclairés, rassurés, consolés, édifiés, on va le voir, par la parole de Dieu, parce que c'est là, à l'intérieur, que tout va se jouer. Comment on peut définir la prophétie? La prophétie, c'est un message spontané, non préparé, non calculé. C'est un message spontané qui est apporté sous l'inspiration de l'Esprit. Un message spontané, un message précis, j'insiste, il y a bien une inspiration du Saint-Esprit pour un message précis à un moment précis. je ne prophétise pas en fonction des situations dont j'ai eu connaissance la semaine. Parce que ça, on nous l'a fait une paire de fois. Hein. C'est pas parce que cette semaine, j'ai entendu un bon enseignement sur Internet, Dieu merci, il y en a, que forcément, dimanche, tout le monde a le droit, sur un ton prophétique, d'entendre le résumé de ce que moi, j'ai entendu cette semaine sur Internet. Ce n'est pas parce que la semaine dernière, j'étais dans une église, une bonne église, ou à un moment, dans le culte. Il y a eu une parole, mais c'était une authentique parole de Dieu qui a courbé l'église, qui a fait du bien, et on a senti même derrière des réponses de cœur et une vague de l'esprit, tellement c'était puissant. Eh ben, c'est pas la peine de me la ramener ici aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que l'esprit veut dire à cette église à ce moment-là. On parle bien d'inspiration non influencée, non calculée, non préparée de ce que l'esprit m'inspire en tant que message précis pour une situation précise à un instant précis. Ce qui se dit dans l'église là-bas, gloire à Dieu, mais moi je veux la parole de l'esprit pour cette église, pour aujourd'hui, maintenant. Ok ? Un message spontané, non calculé, non préparé, non influencé. En d'autres termes, j'insiste, je veux pas être méchant, donc non, je n'arrive pas le dimanche matin avec ma petite prophétie. Je sais que c'est pas évident. On va y revenir. J'ai pas mal de choses à dire. Je vous parlerai un petit peu sur celui qui prophétise et puis sur la façon dont on peut savoir ou pas à quel moment une pensée est vraiment une pensée de l'esprit ou pas. On va parler, maintenant qu'on l'a défini, on va parler du contenu de la prophétie. Paul est à la fois très simple, mais en même temps très clair, très précis. La prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console, puisque vous êtes des accros du provençal, je vous ai mis les traductions provençales entre parenthèses. Je vous ai mis, pour ceux qui veulent noter et qui veulent vérifier, je vous ai mis le grec entre parenthèses. Édifier, le contenu de la prophétie, celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier. C'est vraiment la pensée de construire, bâtir. C'est vraiment cette prophétie qui édifie, c'est une aide à la croissance intérieure. C'est pour construire intérieurement ceux qui vont l'écouter. C'est aussi une façon d'exhorter. Exhorter est un verbe très fort. Vous voyez, paraclésis, c'est un verbe très fort. Il contient la notion d'appel. Il y a un appel dans la prophétie et parfois même c'est tellement fort qu'il y a même cette notion de supplication, cette instance, c'est très fort. Il y a un appel parce qu'il y a quelque chose de très sérieux derrière. Et puis la prophétie, troisième axe, elle doit consoler. Alors certes au sens de calmer, consoler, littéralement, réconforter, mais elle doit aussi persuader, elle doit avoir aussi cette force de conviction. La prophétie, elle console, c'est aussi au sens de persuader. Ça, ce sont, vous avez compris, hein, je l'ai pas mis, j'ai pas assez de place. Ça, ce sont les bienfaits de la prophétie. La prophétie, elle a des bienfaits. Elle doit faire du bien. Quand vous avez entendu des prophéties qui vous ont pas fait de bien, eh ben, c'est clair, net, précis, c'est aussi simple que 1 plus 2. Ben non, c'était pas une prophétie, c'était pas inspiré de l'esprit. Quand vous avez des prophéties qui étaient peut-être pas forcément mauvaises, mais qui vous ont rien, qui ont rien produit à l'intérieur des cœurs, c'était gentil, mais ça nous a pas fait de mal. C'était un encouragement, c'était gentil, mais c'était peut-être juste une simple pensée, une bonne pensée, parce qu'on a des bonnes pensées spirituelles. Mais c'était pas ce que l'esprit voulait dire à ce moment-là. Parce que ça, c'est vraiment l'instrument de mesure, édifier, exhorter, consoler, les bienfaits de la prophétie, c'est l'instrument de mesure pour évaluer une prophétie. Alors, un autre aspect. C'est vrai que dans la prophétie, toujours sur le contenu, la prophétie peut avoir cette notion d'avertissement. La prophétie peut parfois avoir un ton, une certaine tonalité d'avertissement. 1 Corinthiens, je l'avais noté la semaine dernière, 1 Corinthiens 14, 25, l'apôtre Paul parle aussi de cet aspect de la prophétie qui peut convaincre, dévoiler, juger, c'est-à-dire statuer sur la situation, sur l'état d'un cœur. Une prophétie peut avoir un ton, une tonalité d'avertissement pour convaincre, juger, dévoiler, 1 Corinthiens 14, 25. Mais attention, la prophétie n'est pas un jugement. Jamais. J'ai suffisamment entendu, et vous aussi, je sais que vous en avez entendu dans d'autres églises, des prophéties, je mets des grosses guillemets, il y avait un ton prophétique, mais c'était pas de Dieu, il y avait un ton prophétique seulement, où il y avait des jugements. C'est-à-dire que on était en train de publier des sentences sur les gens pour les casser. Oh, la porte de la grâce, elle est ouverte. Il y a que Jésus qui sait, non pardon, il y a que le Père qui sait à quel moment Jésus va revenir. Qui je suis moi pour dire à quelqu'un, dans un ton prophétique, pour juger, pour casser, pour... Oh, la porte de la grâce, elle est ouverte. La prophétie, en dehors de l'amour de Dieu, en dehors de l'esprit de la grâce, ça peut pas fonctionner. Alors elle peut avertir, mais attention, c'est là que je dis, c'est pas un jugement. Elle ne publie pas des sentences pour casser les gens ou pour les juger, pour les détruire ou pour les exclure ou pour les mettre de côté. Non, elle peut avertir, mais toujours dans l'esprit de cette supplication, de cet esprit d'amour, de cette pression qui est là pour une âme qui doit être sauvée. Et son moteur, je vous ai mis, son moteur est toujours l'amour. Et même si quelqu'un apporte en disant, je paraphrase parce que je veux rien citer, à une âme, tu es complètement à côté de la plaque dans ta vie, il y a eu ça, ça, ou ça, ou ça, il faut bien comprendre que c'est dans l'amour et le but, même si la prophétie avertit, le but, c'est toujours de sauver, de restaurer, de relever, d'attirer. Le but, c'est l'encouragement, c'est la restauration, c'est le salut, c'est d'édifier, c'est de construire, etc., etc. Même si elle avertit, son but est clair, sauver, restaurer, relever, attirer. Il n'y a pas d'imprécation ou il n'y a pas de parole de jugement. On ne publie pas des sentences sur les gens. C'est hors de question. Merci Seigneur, c'est pas arrivé ici. Enfin, pas en tout cas, pas pendant que j'étais là. Le message de la prophétie, son contenu. Là, on a déjà plusieurs pistes, mais on n'oubliera pas de façon générale que son message ne doit jamais entrer en contradiction avec la parole de Dieu. Ce qui est dit est effectivement, on verra plus tard ce qu'il faut examiner les dons, examiner les prophéties. Le message ne doit jamais entrer en contradiction avec la parole écrite. 66 livres canoniques, la révélation de Dieu, cette parole écrite, infaillible, éternelle et immuable de Dieu est mon seul point de référence. Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est dans l'esprit, dans l'organisation, peu importe, au sens très large du terme, tout doit être vérifiable et tout doit rester dans le cadre de la parole. C'est clair, c'est net. C'est précis. Jamais un message ne doit entrer en contradiction avec la parole écrite et infaillible, immuable de Dieu. Je continue. Ah, une petite précision, j'avais griffonné ça vite fait. C'est vrai que elle peut avertir, c'est vrai aussi que elle peut dévoiler, c'est ce que Paul dit. Elle peut dévoiler des cœurs, elle peut dévoiler des situations. Par contre, Dieu reste anonyme sur la personne qui a été dévoilée dans son cœur. Parce que Dieu nous aime trop, il respecte trop, et il n'est pas là pour afficher ta vie ou ma vie sur le grand tableau devant tout le monde. Ça, c'est des règlements de compte. Ok ? Donc, elle peut dévoiler. Mais Dieu qui, lui, est toujours un Dieu de grâce, Alors certes, il peut ne pas aimer ce que je fais, il peut me supplier, m'exhorter parce que je suis en danger, il peut même dévoiler pour amener une solution plus grande que le problème, mais c'est toujours dans l'esprit de la grâce, toujours dans l'esprit de la restauration. Il faut absolument comprendre que la personne ne sera pas exposée ou affichée publiquement. Ça, j'y crois pas. Quand le prophète Sophonie dit que dans sa grâce, il aura, Sophonie chapitre 3, il aura envers toi des transports d'allégresse et qu'il gardera le silence sur tes fautes, c'est pas pour t'afficher publiquement parce qu'il y a un truc qui a été de travers cette semaine ou dans ta vie. Donc je ne crois pas, ce n'est pas biblique, à ces prophéties qui vont afficher des gens publiquement. Même si une action secrète est dévoilée, Dieu ne révèle pas le nom de la personne. Alors, on va parler de celui qui exerce le don de prophétie. Maintenant qu'on a parlé du contenu, on va parler de celui qui apporte. On va parler du transmetteur, parce qu'il n'est qu'un transmetteur au final. Le transmetteur, celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Eh bien, justement, il a apporté un don de prophétie. C'est pas un prophète. Dans beaucoup trop d'assemblées, et c'est toujours par ignorance, c'est toujours ça le problème. L'ignorance, c'est le terrain favori et privilégié du diable. Dans beaucoup d'assemblées, quand une personne a exercé et exercé régulièrement le don de prophétie et qu'elle a commencé à prendre un certain esprit, une certaine envergure dans l'assemblée, le frère untel, il est prophète. Il n'est pas prophète, ni au sens de l'Ancien Testament, même pas au sens du Nouveau Testament. Il faut bien faire la différence entre celui qui exerce le don de prophétie et le prophète, soit au sens de l'Ancien Testament, soit au sens du Nouveau Testament. Qu'est-ce que j'ai mis en premier ? Nouveau Testament, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Il ne faut pas confondre celui qui exerce de façon spontané, ponctuel, une prophétie dans le cadre de l'Assemblée, avec le prophète d'Éphésiens 4, verset 11, c'est-à-dire le ministère don, des dons de la parole, des dons de Christ. Ce que Paul dit en parlant des ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et ensuite les docteurs. Donc ces cinq ministères qui ont été nommés par Paul en Éphésiens 4, verset 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ce sont des ministères dons. On appelle ça des ministères dons. Pourquoi ? Parce que ce sont des dons de la parole. D'accord ? Il y a un ministère particulier. Celui qui prophétise de temps en temps dans l'Église n'est pas prophète. Parce que le prophète dont Paul parle en Éphésiens 4 est une fonction dans l'Église, d'accord ? Alors que l'exercice d'une prophétie est ponctuel. On est d'accord ? J'envoie Guillaume comme ça. Bon, chacun va à son rythme, hein, c'est pas un problème. C'est un ministère don et c'est une fonction dans l'Église, qui plus est, une fonction qui reste toujours aux côtés des quatre autres ministères, et il faut noter, alors que Paul a vraiment, ça aussi c'est un argument, Paul a vraiment insisté auprès des croyants nés de nouveau, bâtis dans le Saint-Esprit, pour qu'ils aspirent au don spirituel, surtout à la prophétie, et on sait qu'il y a pu en avoir beaucoup, il faut aussi constater que des prophètes, au sens du Nouveau Testament, Éphésiens 4, il y en a eu très très peu. C'est très important de le souligner. Très peu d'H, c'est homme. J'ai pas beaucoup de place, hein, désolé. Très peu d'hommes dans le NT, dans le Nouveau Testament. Très peu d'hommes sont appelés prophètes, au sens d'Éphésiens 4, une fonction dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Je vous ai mis quelques références. Acte 21 fait référence à Agabus. Acte 15 fait référence à Jude et Silas. Acte 13, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 2, 20. Je laisse ces références pour vous, je peux pas vous faire tout lire. Mais ce sont des exemples où il est question du ministère de prophète. Pourquoi je souligne ça ? Ben, je vais pas être méchant, mais vu le peu d'hommes dans le Nouveau Testament qui avait un ministère don au sens d'Éphésiens 4 de prophète, et le nombre de gars dans le milieu évangélique qui se disent prophètes sur la planète, ah ben il y a un problème. Hein. Rien que ça, c'est un problème. Rien que ça, ça doit éveiller mon attention. Je sais, de par la parole, que le ministère de prophète, c'était au compte-gouttes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères, les cinq, mais aussi, surtout en termes prophétiques, il y a beaucoup de ministères de prophètes qui sont des ministères faux parce qu'ils sont juste autoproclamés. Ce sont simplement des ministères autoproclamés. On s'aperçoit que ces ministères dont, j'insiste, qui étaient peu nombreux, étaient toujours soumis en collaboration unie avec les quatre autres ministères. Il n'y a pas de ministère de prophète en freelance. Ça n'existe pas. Un gars tout seul dans son coin qui a un ministère de prophète, je m'excuse, ceux qui sont sur Internet, vous m'entendez, c'est un farfelu. C'est un farfelu. Le ministère de prophète est toujours soumis et uni et interdépendant. Il est collaboratif avec les quatre autres ministères. Parce que sinon, vous avez compris, c'est la porte ouverte à tout. Donc désolé, je ne change pas de sujet, mais je suis obligé de bien réexpliquer ce qu'est un prophète dans certains contextes, et dans certains contextes seulement. Celui qui prophétise au sens du don spirituel, s'il n'est pas un prophète, attention, c'est un peu gros, mais je préfère le dire quand même, non, il n'a pas non plus le statut de prophète au sens de l'Ancien Testament. Trop de gens, par ignorance et par immaturité dans les églises, ont entendu le frère machin ou la sœur machin sous prétexte que ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'église et qu'ils élèvent la voix. Il a dit ça, alors forcément c'est vrai. Et non, le prophète de l'Ancien Testament, lui seul, est infaillible. Mais celui qui exerce un don ponctuel à un instant T pour un message précis, dans un contexte précis, sous inspiration, et inspiration seulement, j'insiste, de l'esprit, celui-là, il n'est pas infaillible. Le prophète de l'Ancien Testament, lui, il a ce qu'on appelle une inspiration plénière dans la doctrine. On parle d'inspiration plénière, une inspiration totale. Et cette inspiration, qui était encore très spécifique et très particulière à tous ces hommes qui ont été des intermédiaires humains pour la rédaction des 66 livres canoniques, ces hommes-là, ils avaient une inspiration particulière, c'est ce qu'on appelle l'inspiration plénière ou totale, parce que le but à ce moment-là, c'était de graver la révélation complète et infaillible qui deviendra la norme absolue, le fil à plomb, le niveau à bulle, sur lequel tout le monde, à partir du moment où le canon est clôturé, tout le monde s'aligne là-dessus, point barre. Je vous ai mis quelques références, on peut pas tout lire, mais pour ceux qui notent, ou vous retrouverez sur Internet ou en CD, Amos chapitre 3, Apocalypse 10, Ésaïe 30, Habacuc 2, pour vous éclairer aussi sur ces prophètes, réellement ces prophètes de l'Ancien Testament qui, eux, parlaient de façon infaillible. Ensuite, faut être très pratique. À cause de ce que nous venons de voir, et puis aussi, vous l'avez déjà lu, de ce que Paul dit, nous prophétisons en partie. Je suis toujours gêné que dans différentes églises, j'entende des prophéties qui commencent par « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Saint, ainsi parle le Seigneur ton Dieu ». T'as beau avoir 40 ans d'église, excuse-moi, t'es très loin de l'envergure prophétique d'Amos, d'Habacuc et compagnie. Eux, ils ont le droit de dire « Ainsi parle le Seigneur ». Paul peut dire « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Oui, là, il y a beaucoup d'exemples. Je suis très gêné quand des gens disent « Ainsi parle le Seigneur ». En vérité, le Seigneur, dans sa grâce, il t'a communiqué une pensée. Tu devrais trembler dans ton cœur en mesurant la grâce, mais aussi la responsabilité qu'il te fait. Et tu devrais dire simplement, soit simplement commencer en exprimant ce qu'il y a sur ton cœur, ou à un moment de dire, voilà la pensée que le Seigneur met sur mon cœur. Voilà la pensée que le Seigneur met sur mon cœur. On peut dire aussi, voilà la pensée que je crois avoir reçue du Seigneur. Voilà une pensée que je soumets à l'Église. Parce qu'ensuite, l'Église, elle va statuer. Hein. L'Église, elle doit pas tout gober. L'Église, il faut qu'elle statue. Ça, c'est la prochaine étape, c'est dimanche prochain. Mais on va parler de l'examen des prophéties. D'accord ? Donc, ça me gêne. Quand on entend, vous savez, ça fait un petit peu tonitruant, attention, écoutez ce que le Seigneur, l'Esprit, écoutez ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dit à son peuple et tout. Oh là, frère, eh oh, redescends, t'as juste une pensée. Eh, moi, des pensées, j'en ai tous les jours, eh, c'est bon, quoi. T'es pas prophète, t'es juste un outil que Dieu, dans sa grâce, a daigné utiliser. Et quand l'outil... C'est valable pour la prédication, c'est valable pour n'importe quelle chose dans l'église, la louange, tout. Quand le Seigneur en a fini avec l'outil, vous savez ce qu'il fait avec l'outil? Il le prend, il le raccroche, et le Seigneur, il le reprend quand il veut. Et puis, on n'oubliera pas, même si Paul dit « nous prophétisons en partie », on n'oubliera pas, frères et sœurs, que s'il y a une pensée de Dieu, c'est clair, c'est sûr, c'est net, il y a une pensée de Dieu, mais... Entre ce que Dieu inspire et le message qui est transmis, il y a le transmetteur, il y a sa vie, il y a son parcours, il a eu ses victoires, ses échecs, il a ses faiblesses, il a le droit. Parce que j'insiste, parce que je vous parlerai la semaine prochaine du fait qu'on examine les prophéties, pas celui qui transmet. C'est important ça aussi, mais bon, ok. Eh oui, on examine la prophétie, pas celui qui transmet. Je juge pas celui qui a parlé. Et je fais pas un examen de sa vie, non, c'est pas ça. Mais vous comprenez bien que il y a quand même, il y a sa vie. Ben oui, il y a des points sur lesquels il est plus mature que d'autres. Il y a son caractère qui, sur certains points, est plus avancé que d'autres. Il y a sa personnalité, il y a ses états d'âme, il y a ses faiblesses, il y a tout ça. Mais s'il est faible et s'il est encore pas parfait dans son caractère, pourquoi le Seigneur l'utilise? Ben parce que c'est une grâce. C'est pas méritoire, c'est pas une récompense, c'est la grâce et ça me dépasse. Donc, je n'oublie pas que non seulement on prophétise en partie, mais qu'entre ce que Dieu inspire comme message et la délivrance du message, eh ben il y a le transmetteur et il y a sa vie et puis ben il est pas parfait. Eh oui, ben ça on en parlera aussi, on en reparlera la semaine prochaine. Quelque chose d'important encore. C'est quelque chose que je devais vous dire. Comment est-ce que je fais pour savoir si ce qui est sur mon cœur, c'est vraiment ce que l'Esprit veut que je dise? Bah, comment je fais pour savoir si ce qui est sur mon cœur, c'est ce que l'Esprit veut que je dise? Parce que je vous garantis, frères et sœurs, moi je vous fais 1, 2, 3, 4 prophéties sans problème chaque dimanche, hein. Et calé par rapport à la parole. Mais c'est pas forcément ce que l'Esprit veut que je dise. Parce que dans un auditoire, vous aurez toujours des gens qui ont mal au dos. Donc c'est facile de voir quelqu'un qui a mal au dos. Ça peut être vrai, hein, et qui est guéri. Mais il y en aura toujours. Des gens qui sont venus, qui sont fatigués, qui ont été découragés, qui ont morflé cette semaine, qui s'en sont pris plein les dents dans leur famille. J'ai pas besoin d'être prophète pour le savoir, il y en a tous les dimanches. Vous savez, une bonne prophétie sur quelqu'un qui a besoin de se repentir, je vous en fais une tous les dimanches. Une prophétie sur l'œuvre de la croix, pour recentrer l'Église sur la croix, moi je vous en fais une tous les dimanches, hein, c'est pas un problème. Hein. Une prophétie pour quelqu'un qui a besoin de venir, revenir au Seigneur dans la repentance, parce que sa vie, ça fait un moment qu'elle est pas... Ben, sur un auditoire, vous en avez toujours au moins. C'est tout le temps. Et ce sont des pensées qui sont justes, elles sont bibliques. Comment je fais pour savoir si ce qui est sur mon cœur, c'est ce que je dois amener? Un jour, dans une autre église, j'avais un brave frère. Il était très gentil, brave, et puis très sentimental. Le sentimentalisme, c'est pas l'amour. Attention, ça peut être très, très versatile. C'est le bon sentiment et l'affect, c'est dangereux. Dieu est amour, il est pas sentimentaliste. Mais mon brave frère, il était très sentimental. Et quand l'église commençait à faire un petit peu de progrès et qu'il sentait un petit peu que dans la louange, ça montait un petit peu, puis que les cœurs s'ouvraient, qu'il y avait un peu de ferveur, lui-même étant réjoui parce que l'Église vivait un peu plus, pouf, il avait une pensée du Seigneur. Et c'était toujours une pensée du genre, pardonne-moi Seigneur, je ne critique pas, tu le sais, c'est un exemple, c'était toujours une pensée du genre, ah, le Seigneur est heureux, le Seigneur se réjouit quand il voit son peuple, et le Seigneur se plaît à la louange de son peuple, etc. Mais ça, c'est vrai tout le temps, ça. Et c'est pas parce que il le dit à ce moment-là, c'est pas forcément ce que l'Esprit voulait dire à ce moment-là. Vous comprenez que des prophéties, je mets des grosses guillemets, des paroles qui collent, qui cadrent à la parole, je peux vous en faire tous les dimanches, hein. Il y a tellement de sujets. Celui qui prophétise n'a pas une simple pensée. Il a vraiment une conviction dans le cœur, pour ne même pas dire une pression. On parle d'une douce pression, parce que l'Esprit ne me casse pas. Mais on parle vraiment d'une pression très forte du Saint-Esprit dans le cœur. C'est ce genre de conviction qui ne vous lâche pas. Tant que vous n'avez pas lâché le morceau, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça. Il y en a qui font oui, je sais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne vous lâche pas. Et vous êtes tranquille que quand vous l'avez lâché. Ça, c'est souvent un indicateur. Mais le fait que la pensée que j'ai soit biblique ou spirituelle n'est pas suffisante, parce que c'est pas... Alors, merci Seigneur, ça nous fera pas de mal, ça nous fera du bien. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit voulait dire à ce moment-là. Une pression, une douce pression, une conviction de l'Esprit, ce genre de conviction qui ne vous laisse pas tranquille tant que vous n'avez pas délivré le message. C'est très important parce que, frères et sœurs, avec un peu de maturité spirituelle, avec un peu de fruit de l'esprit, avec un peu de connaissance biblique, avec tout ça, ben c'est ce que je vous dis, c'est très facile d'avoir des bonnes pensées. La parole, elle nourrit ma pensée, la parole de Dieu nourrit ma pensée. Et plus vous vous nourrissez, plus vous êtes en communion avec le Seigneur, ben plus vous avez des bonnes pensées, c'est normal, des pensées de Dieu, des pensées bibliques, parce que vous apprenez à penser comme Dieu pense. Oui, mais savoir ce que Dieu veut que je dise au moment où je le dise, il suffit pas d'avoir une bonne pensée spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens, ils sont convaincus le samedi soir que le dimanche ils vont prophétiser. Non, ça marche pas comme ça. Parce que c'est pas ma prophétie, c'est pas le résumé de ma lecture biblique d'hier. C'est pas une simple pensée. Donc il faut comprendre, il y a de la maturité spirituelle, une connaissance de la parole, mais qui peut m'amener à faire des prophéties, entre guillemets, tout le temps. Et non, ce n'est pas le but. Il faut vraiment ressentir, avoir cette conviction de ce que le Saint-Esprit veut dire à ce moment précis pour l'Église, dans ce culte, à ce moment-là. Alors celui qui prophétise, on continue ? On va dire, même peut-être pour être encore plus juste, celui qui pratique le don de prophétie, il doit veiller à être toujours dans l'esprit de la grâce. Toujours se souvenir que ce que Dieu me communique, s'il me communique quelque chose, il le fait par pure grâce. Et que la grâce qu'il me fait engendre une responsabilité. Un grand privilège amène toujours une grande responsabilité. Donc, étant conscient de la grâce et de la responsabilité, oui, parce qu'attendez, il y a des gens derrière, il y a des enjeux sérieux, la prophétie, c'est pas un petit truc, l'Église, c'est pas un petit machin au passage, il y a des besoins profonds dans les cœurs, il y a des réels besoins de victoire, et celui qui va amener un don de prophétie, il faut qu'il soit conscient de la grâce, de la responsabilité et des enjeux qui sont derrière. Et le but, c'est pas qu'ils ressortent en disant « Ah, oh, chouette, je suis content, ce que j'ai dit ce matin, c'était bien taillé, c'était bien cadré, puis là, c'était bien calibré, bam, bam, bam. » Non, il faut qu'ils comprennent que c'est pas pour lui, on l'a dit la semaine dernière, il y a des enjeux. Donc, ce qui va l'amener à veiller d'autant plus sur la qualité de sa communion, de son intimité et de son écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il faut celui qui veut être utile dans la prophétie, celui qui veut être utile doit comprendre, il est indispensable d'apprendre à faire le tri dans nos pensées, même dans nos pensées spirituelles. Apprendre à faire le tri dans nos pensées. Il doit veiller évidemment sur son cœur, rechercher l'amour. C'est Paul qui le dit, c'est pas Brion. Rechercher l'amour, veiller sur son cœur. Il doit aussi garder toujours à l'idée cette image, cette vision du corps. Un cœur humble et soumis. Et c'est là que je vous ai fait lire tout à l'heure le chapitre 12, les versets 12 jusqu'à la fin du chapitre. On n'a pas tout lu, mais vous pourrez tout relire. Garder un cœur humble et soumis. Avoir cette profonde conscience, celui qui a porté un don de prophétie n'est pas plus que les autres membres. Si je suis une oreille et que dans sa grâce Dieu me permet d'apporter quelque chose, à l'issue de du don de prophétie, je suis toujours une oreille et je suis toujours pas plus que le pied ou le coude. C'était une grâce. Et il y a cette attitude d'humilité et de soumission. Vous savez ce que c'est la soumission dans la Bible ? Beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens savent pas trop ce que c'est. La soumission, c'est pas d'être le larbin des autres. La soumission, c'est pas d'être aux ordres de l'ancien, du pasteur, du responsable d'activité, de ceci, de machin, bidule, cela. La soumission, c'est pas d'être le larbin des autres. Parce que si on commence, quand Pierre dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu », si on commence à tous se donner des ordres, à les respecter, je vous dis pas l'anarchie, hein, ça va être compliqué. Hein. La soumission dans la Bible, c'est très simple. La soumission, c'est être à sa place. Si pour toi, mon frère, ma sœur, ta place, Dieu te veut, là et comme ça, dans un service, une activité, s'il te veut, là et comme ça, dans l'usage de tel don spirituel, tu gardes ce cœur humble parce que tu sais que tu ne vaux pas mieux que les autres membres et tu gardes ce cœur soumis parce que tu vas surtout rester à ta place. Le don que tu as exercé n'est pas une occasion d'essayer de prendre une autre place, parce que le pire dans le corps, c'est quand le coude est à la place de l'oreille. Alors là, et que le petit doigt de pied est à la place du nez ou inversement, je vous dis pas, le Picasso, c'est atroce. C'est quoi être soumis? C'est quoi la soumission? C'est être à sa place. Celui qui apporte un don, quel qu'il soit, hein, c'est encore une généralité, il garde un cœur humble et il est soumis, c'est-à-dire qu'il va rester à sa place. Il a toujours cette vision de l'unité et de la bonne santé spirituelle du corps. Et celui qui apporte un don, il pense pas à lui, il pense à tous les autres membres du corps qui ont besoin d'être bénis parce que le Seigneur, dans sa grâce, va lui donner. Ok ? Alors, j'ai bientôt fini. Enfin non, j'ai pas fini, mais je vais bientôt arrêter. Je vais essayer quand même de terminer le point, celui qui prophétise. Hein. On est toujours là. Quelque chose de très pratique. J'ai jamais compris pourquoi dans les assemblées, quand quelqu'un, je veux être très pratique, quand quelqu'un reçoit un don de prophétie, je comprends que ça mette une douce pression, hein, c'est clair, mais qu'il y ait cette espèce de hâte. Tout de suite, j'ai à peine eu l'ombre du début, du commencement, d'une pensée qui pourrait être de Dieu, que il faut que ça sorte, et écoutez-moi tout le monde. Quand tu penses avoir reçu quelque chose de Dieu, mon frère, ma sœur, ne te précipite pas. Dans 5 minutes, l'Église, elle sera toujours là. Puis si le Seigneur est revenu, de toute façon, ce que tu auras à dire, on n'en aura plus besoin. Alors, dans 5 minutes, ça ira encore aussi très bien. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que si je ne me précipite pas, je vais prendre le temps. J'ai une pensée. Je pense que c'est une pensée que l'Esprit veut que je donne à ce moment-là, ce qui va me permettre, effectivement, moi, à ma place, de prier Dieu, de prendre le temps, de sonder, de laisser cette pensée s'installer, s'éclaircir, être confirmée, et puis simplement de parler en langue. Parce que quand je parle en langue, le Seigneur, il fait monter les pensées, il éclaire les choses. Je suis pas à 5 minutes. Faut pas se précipiter. Dieu veut confirmer sa pensée. C'est bon de savoir attendre. Je souhaite à tous ceux qui ont l'exercice de la prophétie de faire cette expérience. C'est arrivé ici, quelqu'un, je dis même pas homme ou femme, quelqu'un me l'a dit ici récemment. Il y avait une pensée qui était sur le cœur de quelqu'un, et puis ce quelqu'un, ayant déjà apporté de temps en temps ou régulièrement se dit dans son cœur, « Oh, Seigneur, faut pas que ce soit toujours les mêmes. Seigneur, non, pardon, Seigneur, pas moi aujourd'hui. » Alors là, vous vous souvenez de ce fameux dimanche où il y a un éclair divin qui a foudroyé la personne. Elle est morte sur le coup, vous vous en souvenez. Bien sûr, le Seigneur est un Père, il est plein d'amour, il est plein de grâce. Et voyant l'attitude bonne de cette personne, 5 minutes plus tard, la même pensée, je ne veux pas dire mot pour mot, parce que c'est quand même pas les prophéties de l'Ancien Testament, la même pensée sort chez quelqu'un d'autre. C'est génial. Vous savez pourquoi ? Parce que ça me prouve que je suis sur la bonne longueur d'onde. Et comment est-ce que je peux savoir si je suis toujours inspiré, si je suis toujours dans le coup ? Eh ben, c'est simplement quand d'autres peuvent apporter ce que j'ai reçu. Ne te précipite pas, le don ne t'appartient pas. Pardon, j'ai vu dans des églises, des gens, excusez-moi, quand ils essayaient d'apporter une prophétie, ils étaient vraiment les seuls à penser ce qu'ils pensaient. C'est quand même bien que tu sois pas le seul, pas la seule, à penser ce que tu penses. Et que d'autres aient pu dire, ah oui, effectivement, oh j'avais cette pensée, ah oui frère, ah oui, oh un autre, oh mince, j'ai tardé, un autre l'a apporté. Mais c'est super qu'un autre l'ait apporté. C'est très bien et Dieu ne me juge pas. Au contraire, c'est parfait. Donc, ne jamais se précipiter. Dieu veut confirmer sa pensée de différentes façons. Un autre dernier point, savoir faire un acte de foi. Parce qu'il y a des gens, ils se précipitent, puis il y en a d'autres. Ils ont tellement réalisé la responsabilité et l'enjeu que quand ils ont une pensée, il y avait... Et il y a des fois des gens, on le sait, hein. On va les voir, on va leur dire, t'avais quelque chose du Seigneur aujourd'hui, hein. Mais c'est pas sorti, hein. Je peux pas. Parce que les autres, ils m'écoutent. Ah oui, c'est quand même le but de la prophétie, c'est que les autres, ils t'entendent, hein. Il y a un acte de foi à faire pour surmonter son appréhension. Mais en même temps, une autre personne, ça c'est arrivé ici. Une autre personne est venue me voir il y a quelques, 2 semaines maximum, 1 ou 2 semaines, 3 semaines. Une personne est venue me voir et elle me dit, une personne qui n'a pas l'habitude d'exercer le don de prophétie, me dit après le culte, « Ah, j'avais vraiment ça sur le cœur, mais j'ai pas pu le sortir. » Elle me dit, « Par contre, comment Dieu est bon, ce que j'avais sur le cœur, tu l'as dit dans ta prédication derrière. » Ah, je dis, ben, je sais pas de quoi on parle, parce que moi, je sais pas, il y avait ça sur mon cœur, j'ai sorti des trucs comme ça. Ça prouve à cette personne qu'elle est sur la bonne longueur d'onde, et que ce qu'elle avait reçu de Dieu, ça va l'encourager pour la prochaine fois, c'était vraiment de Dieu, et ça a été confirmé par une prédication, un autre don, une autre pensée, peu importe, peu importe, peu importe. Donc, il doit y avoir cette attitude de celui qui prophétise, dans la grâce, de sa responsabilité, de l'enjeu, de veiller sur son intimité avec le Saint-Esprit, apprendre à faire le tri dans ses pensées, de veiller sur son cœur, de garder un cœur pur, humble, soumis, plein de l'amour agapé de Dieu. Et puis, dans les circonstances pratiques, de ne pas se précipiter, ça sert à rien du tout. Et puis, d'avoir aussi cet acte de foi, parce que c'est un acte de foi, je dois prendre mon courage à deux mains et ouvrir ma bouche pour apporter ce que le Seigneur veut que j'apporte. Amen.